grabando el Guzmán Casal Oriental. Se refiere totalmente que...
Porque este es un vacío que se engage, en contra de la decisión por la solución para Polta.
Bon début de semaine à tous et merci d'être de nôtre dans cette première production de Paroles aux auditeurs, votre magazine des champs citoyens de cette semaine. Selon plusieurs rapports et analyses économiques, plus de 80% de l'économie congolaise reste aux mains de petites et moyennes entreprises. Mais celles-ci rencontrent énormément de difficultés. Au nombre de ces difficultés figure entre autres le problème de surtaxation, l'accès difficile au crédit bancaire ainsi que des difficultés de s'approvisionner en intrants. C'est pourquoi de nombreux observateurs estiment qu'il faut relever ces défis pour que les petites et moyennes entreprises, PME en sigle, jouent un rôle important dans le processus du développement économique de la RDC et dans la création de la classe moyenne. Qu'en pensez-vous? Nous en parlons donc aujourd'hui avec cette question. Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Tout équipé là pour vous tenir compagnie, nous avons Guy Mantangou à la technique, César Julie Bongonda et Jérôme Lamégis sont à la réalisation de ce programme coordonné présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50. Heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Voilà, on me dit, il y a un auditeur qui est en ligne. Bonjour, monsieur. Allô? Voilà, donc nous aurons à réunir tout ça, mais tout en vous rappelant qu'il s'agit des débats autour de la promotion des petites et moyennes entreprises, mais il faut noter que les problèmes liés à la promotion des petites et moyennes entreprises sont nombreux, entre autres ce que je viens de dire, la surtaxation, l'accès difficile au crédit bancaire, ainsi que des difficultés de s'approvisionner en intrants. Alors c'est pourquoi de nombreux observateurs estiment qu'il faut relever ces défis pour que les petites et moyennes entreprises, PME en sigle, jouent un rôle important dans les processus du développement économique de la RDC et dans la création de la classe moyenne. Vous vous souviendrez, le ministère de l'Industrie que nous avons reçu il y a quelques semaines avait lancé la campagne dénommée Made in Congo, c'est-à-dire consommons congolais. Alors, pour certains observateurs, la consommation des produits locaux passe par la production qui doit être suffisante, mais comme on le sait, la production, le niveau de production actuellement en RDC est vraiment au rabais et cela ne pourrait en aucun cas permettre à ce que la population puisse consommer localement. Donc il faut réellement monter des stratégies appropriées pour faire la promotion de petites et moyennes entreprises afin de réaliser un score important dans ce qui concerne la production. Voilà. Nous allons prendre le premier auditeur qui nous en rejoint pour ouvrir les débats. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les amis avec qui nous allons nous changer. Félicitations à nos joueurs et merci aussi à l'invité qui est là.
Voilà. Voilà, Franck, je l'ai dit tantôt, nous avons découvert dans plusieurs rapports et analyses économiques, il y a par exemple de plus de 80% de l'économie congolaise qui reste aux mains des petites et moyennes entreprises. Alors comment faire aujourd'hui pour promouvoir ces petites entreprises et aussi créer la classe moyenne?
Oui, merci beaucoup pour la parole. Je vais commencer par m'excuser parce que dans ce domaine, je ne suis pas... J'ai pas la maîtrise de toutes les questions économiques, mais je m'intéresse aussi à certains aspects économiques parce que sans économie, sans stabilité économique, rien ne peut marcher dans un état respectable. Je sais que le constat que vous avez fait est vraiment fondé. C'est question de circuler dans certains coins de la RDC pour s'en rendre compte. Plus de la moitié de notre économie congolaise, plus de deux tiers restent gérés par les petites et moyennes entreprises. Mais dans ce domaine, il y a encore des séries de difficultés indescriptibles à surmonter. Il y a d'abord le problème d'accès à des crédits bancaires qui posent problème. Il y a aussi le problème de possession de filières bancaires. Les quelques succursales bancaires que nous avons là au Congo sont dans la plupart des cas des banques d'obédience étrangère. Si bien que quand un Congolais moyen ou un Congolais de la classe moyenne se présente dans des guichets de telle banque pour solliciter un crédit, en tout cas dans la plupart des cas, il a des difficultés pour en avoir quoi. Et il y a aussi un aspect dont on peut plus... On doit toujours évoquer que le salaire, la qualité de salaire qu'on donne à nos gens. Mais chez les journalistes, pour un travailleur de la fonction publique qui parfois a moins de 150 dollars le mois, pour un enseignant de l'école primaire ou secondaire qui parfois n'arrive même pas à avoir 200 dollars le mois, avec quel miracle pourrait-il se permettre d'avoir un crédit de 50 000 dollars pour commencer par exemple quelque chose? Je crois que les difficultés sont là réelles. Quelquefois, j'ai suivi le débat avec votre un invité, un économiste, monsieur Michel
Sommoy.
Il a quelquefois évoqué des éléments que moi je trouve pertinents parce que dans la plupart de ses interventions, il fait voir qu'au-delà des efforts que le gouvernement est en train de faire, notamment la bancarisation ou les quelques réformes administratives, la classe moyenne reste encore pauvre. Or, tant que cette classe moyenne restera encore pauvre, donc on aura toujours des difficultés pour créer un peu un circuit qui lui permettrait d'avoir accès à certaines aides financières. Quoi. Donc, on a bancarisé des pays des ouvriers, mais en réalité, on peut parler qu'on a délocalisé le système de pays, parce que bancariser, selon moi, signifie que chaque agent peut aller ouvrir son compte dans une succursale de banque de son choix. Or, ici, avec nous, ce n'est pas le cas. Donc, c'est la fonction publique ou bien le circuit de paie qui ouvre et qui demande à l'ouvrier, au travailleur, d'aller retirer son salaire de mois dans tel guichet de banque. Là, déjà, c'est quelque chose. Et quand le salaire est versé, dans la plupart des cas, je ne sais pas si je me trompe, dans la plupart des cas, beaucoup de gens vont y retirer la totalité de ce qu'ils devaient retirer. Donc, ils ne laissent pas quelque chose dans son compte, si bien que quand il se présente quelque part pour demander un crédit, on lui demande, monsieur, vous travaillez où? Faites-nous voir, donnez-nous des garanties que les crédits que vous voulez prendre, vous serez en mesure de les rembourser. Et quand on arrive déjà à ce niveau-là, on perçoit que la politique bancaire à RDC n'est favorable que pour une catégorie de citoyens. Donc, tant que cette politique bancaire resterait seulement pour une catégorie de citoyens, les petites et moyennes entreprises auraient vraiment de la peine pour décoller. Alors que dans d'autres cieux, nous nous rendons compte que l'économie est aussi vraiment entre les mains des petites et moyennes entreprises parce que là aussi il y a des emplois qui sont générés, il y a des circuits d'emplois qui se créent, alors ça implique bien des choses à l'État. Alors quelque part, quand on fait des analyses assez critiques comme ça, il y en a qui pensent qu'on est seulement pessimiste, mais on n'est pas pessimiste, on dénonce par rapport à ce qui ne va pas, on dénonce pour qu'on puisse un peu changer afin que ça puisse bien marcher pour le bien des autres. Je crois avoir dit l'essentiel par rapport à
oui, Franck,
ce que je vous avais dit.
Oui, Franck, avant que nous attendions la parole à Odon qui est à Kabina, pour certains observateurs, il est très indiqué que pour consommer congolais, il faut suffisamment des productions congolaises, et pour produire congolais, il faut normalement passer par certains préalables, entre autres, que l'État puisse subventionner les petites et moyennes entreprises, accorder quelques allègements fiscaux à ces entrepreneurs, et aussi encadrer, c'est-à-dire créer des cadres qui permettra ou des cadres qui permettront donc aux petites et moyennes entreprises d'accéder facilement au crédit pour leurs activités. Est-ce que vous partagez cet avis?
Tout à fait, monsieur le journaliste. Tout à fait, parce que c'est comme je viens de le dire, pour créer, pour promouvoir le rayonnement de petites et moyennes entreprises, il faut que l'État congolais mette un peu de moyens. Mais est-ce que l'État congolais a tous ces moyens-là? C'est une des questions à laquelle on peut répondre au cours de l'émission. Parce que quand on voit déjà la quantité du budget, donc le budget est voté par rapport à certains besoins vraiment prioritaires. Mais le budget que nous avons vu ici ne permet pas encore à l'État congolais d'avoir un regard dans ce domaine-là. Or, tant que l'État n'aura pas un regard dans ce domaine, il y aura encore d'énormes difficultés. Ça, c'est vrai. Les deux, quand on dit consommer congolais, c'est bien. Mais moi, je me demande, on va consommer congolais dans quel état? Parce que si vous circulez dans nos villages, moi, quand j'arrive, il m'arrive d'aller même dans les fins fonds là-bas. Je vois un peu comment les travailleurs, les ouvriers se demandent pour travailler. Ils produisent, mais quelque part, ils sont bloqués avec notamment les problèmes de transport, avec les problèmes d'évacuation. Donc, il y a toute une série de problèmes administratifs, de difficultés, des infrastructures qui se présentent au niveau de ces travailleurs, si bien que ce qu'ils produisent ne peut pas atteindre certains lieux pour être facilement transformé. Dans nos pays là-bas, si vous suivez dans nos villes, il y a beaucoup de trous. Oui, on pouvait subventionner certaines communautés, par exemple religieuses, on pouvait subventionner certains fermiers pour avoir des petites machines pour transformer, par exemple, les fruits pour en avoir des jus d'orage, des confitures, des trucs comme ça. Mais est-ce que notre État, est-ce que nous avons des banques qui sont en mesure d'employer des crédits comme ça sur les citoyens congolais? Je crois que le problème n'est pas encore résolu tant que notre politique financière, notre politique bancaire ne permettent pas encore aux citoyens congolais d'avoir des crédits pour bien rayonner. Et le plus grand problème, voilà, c'est parce que les banques que nous avons, la plupart des banques que nous avons là sur place, sont des banques de médias étrangères. Et des banques de médias étrangères ne viennent pas travailler pour aider la population à décoller, mais elles travaillent d'abord pour gagner plus d'intérêt sur le dos de la même population.
Voilà, c'est pourquoi.
Évidemment, il y en a qui vont dire que nous avons beaucoup de banques, nous avons ceci, mais si vous vous rendez compte, toutes ces banques sont seulement dans les centres urbains, dans les grandes villes. Vous n'irez pas dans certains secteurs ou bien dans certaines collectivités, voir des guichets de banque. Donc, on est encore loin du tunnel et je crois que on demanderait à notre gouvernement d'avoir encore un regard réaliste par rapport à ce domaine-là.
Merci beaucoup, Franck. C'est pourquoi nous avions pris contact, mais malheureusement, c'est sans succès, avec le ministère de PTT moins d'entreprises. On aurait bien d'ailleurs souhaité que le ministre que nous avions personnellement contacté puisse éclairer la lanterne des uns et des autres sur les cas que vous venez d'évoquer, qui ont parfois prêtent un peu à confusion, hein, une confusion qui règne dans les chefs des populations autour de cette campagne Made in Congo pour les comptes du ministère des Industries, et d'autre part, la promotion faite par les ministères de petites et moyennes entreprises au bénéfice de ces entreprises-là. Alors, donc, le ministre nous avait promis, mais en dernière minute, le contact n'a pas abouti, ce n'est qu'une partie remise, Franck. Donc, je crois que nous allons y revenir pour éclairer les uns et les autres par rapport à ça, parce que comme vous l'avez dit, consommer, produire, vous rejoignez les observateurs qui ont fait cette analyse en disant qu'il faudrait qu'il y ait suffisamment de production pour permettre à ce que les gens puissent consommer localement. Donc nous avons vu le travail qui est fait parallèlement d'un côté par le ministre de l'Industrie et de l'autre, en tout cas les ministres des Petites et Moyennes Entreprises, qui est descendu aussi sur le terrain. C'est là parfois prête à confusion, alors on ne sait pas qui fait exactement la promotion de les petites et moyennes entreprises, et vous avez dit tout passe par la subvention que l'État doit accorder à toutes ces activités, et aussi quelques allègements fiscaux à accorder à ces entrepreneurs, et enfin l'encadrement qui passera par un cadre pour permettre à ce que les entreprises puissent accéder au crédit bancaire. Merci beaucoup, Franck. Odon, vous êtes à Kamina. Bonjour.
Bonjour beaucoup, Hier.
Vous avez la parole, Odon. Quel est votre point de vue?
Mon point de vue, c'est que vous savez, si dans un pays l'économie n'est pas stable, vous verrez que les petites et moyennes entreprises n'auront pas de point de départ. Donc ici au Congo, pour que les petites et moyennes entreprises se développent, on doit d'abord premièrement recourir à l'économie locale. Donc, dans un pays où la production n'est pas du tout priorisée, comment veux-tu que les petites et moyennes entreprises se développent? Prenons d'abord le cas ici à Kamina. Il y a des choses qui sont produites ici à Kamina, mais pour arriver maintenant donc, dans des villages qui environnent, qui sont juste aux environs de Kamina, mais pour que les produits quittent ces villages-là et arrivent ici à Kamina, c'est un problème. Le manque de transport là complique trop. Vous voyez que la population produit normalement ce qu'il faut produire, mais juste le moins, c'est aussi défaut. C'est ainsi. Le ministre de l'Industrie, le programme qu'il a donné là, c'est juste un programme, je peux dire que c'est un programme qui sera peut-être favorisé, qui pourra peut-être favoriser le style une partie de la population. Donc nous sommes dirigés par une politique qui favorise une partie de la population. Le produit bancaire, comme vous avez dit là, ici à Kamina, je ne pense pas que la notion là est d'ailleurs plus répandue. C'est un problème ici à Kamina. dans le but. Le ministre de l'Industrie pouvait normalement lancer d'abord une campagne de sensibilisation. Ben, je m'excuse, une campagne de sensibilisation. Faire d'abord une campagne de sensibilisation dans toutes les communautés congolaises. C'est dans des écoles, donner une notion aux élèves. Qu'est-ce que la bancarisation? Qu'est-ce que c'est? Donc, tellement faire une chose là qui a déjà un niveau là supérieur, mais vous le faites à une population là qui ne sait rien.
Il faut faire la part des choses. Il y a la campagne Made in Congo lancée par le ministère de l'Industrie, mais de l'autre côté, il y a le ministère de Petites et Moyennes Entreprises qui s'est lancé également dans la campagne de sensibilisation de Petites et Moyennes Entreprises pour, au fait, palper du doigt les problèmes ou faire l'état des lieux du secteur afin d'aider ces entreprises à faire bien le travail et aussi à réaliser une production qui pourrait aider les uns et les autres.
D'accord, quand j'ai suivi Franck de Vienne, quand il a soulevé le problème que l'économie congolaise est juste à prioriser une partie de la population, c'est vrai. Moi, la campagne que je suis en train de me dire là, c'est une campagne que je viens maintenant là de reconnaître au moment que je coupe la radio au Kabi. Mais sinon, ici à Kamina, je ne pense pas que tout un chacun de nous est tellement intéressé à ça. Sinon, le gouvernement devait s'intéresser à la République tout entière. L'économie congolaise, c'est une économie qui intéresse tous les Congolais. La campagne que le ministre de l'Industrie a lancée, je ne pense pas qu'ici à Kamina, ça peut peut-être arriver. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Dans tous les points qui environnent Kamina, je ne pense pas que cette campagne peut arriver. Mais sinon, on doit juste tenir l'économie du point de vue de besoin de la population. L'économie dépend de la population, elle doit aussi répondre aux besoins de la population. C'est-à-dire la production d'abord locale, dans l'agriculture, il y a l'élevage agricole ici. Je ne pense pas que la viande qui vient de Grita pour arriver ici à Kamina, c'est un problème. On prend la viande par moto. Vous voyez, là, c'est déjà une chose là qui est un peu bizarre. Mais comment on peut faire maintenant que le petit et moyen d'entreprise se développe? C'était ça la préoccupation, merci.
Merci beaucoup, Odon. Omar, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, JR, et bonjour à tous, toi, la Radio Kati.
Vous avez la parole, Omar.
Merci, excellentissime JR, de la parole que vous m'accordez. Je voudrais dire d'entrée des jeux, comme je suis juriste, si vous pouvez quand même que mon approche soit également aujourd'hui juridique. Alors, quand on parle de PME, il y a un problème d'abord sémantique, JR. On ne sait pas c'est quoi une PME exactement. Et je voudrais interpeller les ministres sur la définition exacte d'une PME. Il y a une contradiction légale. Il y a une charte qui a été votée en 2006, portant organisation de petites et moyennes entreprises, qui définit celle-ci comme toute entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 400 000 $ et qui comporte au moins 100 employés. Ça, c'est la loi sur le PME de 2006. Je ne sais pas si elle a été modifiée à ce jour. La loi fiscale, à son tour, définit les PME comme toute entreprise qui réalise un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions de francs congolais. Bien sûr, l'approche sémantique est un problème. Ça pourrait être l'une de causes de la non-promotion. Cela n'est pas vraiment un élément de grande importance. Comme vous l'avez dit dans l'introduction, le PME dans chaque pays du monde GIR se révèle être le facteur par excellence de la croissance économique et du développement d'un État. Car je l'ai toujours dit, il n'y a pas de développement sans production interne. Et nous l'avons souligné avec M. Jamé Kambing à la fois passée que la promotion de la campagne Made in Congo est une conception problématique transversale qui intéresse beaucoup de ministères et l'émission d'aujourd'hui nous a donné raison. Comme vous l'avez dit hier, et c'est également mon constat, les PME qui sont censés promouvoir l'économie d'un pays ne font pas leur travail en RDC. Et les causes, vous l'avez cité, la surtaxation, si on peut être simpliste, on dirait les degrés élevés de la fiscalité, la problématique du non-financement, la problématique du non-approvisionnement. Mais toutes ces causes, aussi longtemps qu'elles demeurent, feront en sorte que les PME puissent être des canards boiteux, des brebis galeuses, qui ne pensent pas à l'économie congolaise d'échelonner. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'un intellectuel ne peut pas se limiter à constater un fait, encore faut-il apporter des solutions. Voici ma modeste contribution hier. Moi, je pense que la promotion des PME passe sur trois choses. Premièrement, sur le respect de la loi. Hier, tout ce que vous dites existe. Nous sommes un état des droits et rien ne s'est fait sans que cela soit prévu. Nous avons une loi numéro 004/2002 du 21 février 2002 portant code des investissements en RDC. Ces codes donnent des avantages tant douaniers que fiscaux à tous les investisseurs, notamment ceux dans les secteurs du PME. Ces codes prévoient par exemple, à son article 9, qui est des avantages douaniers fiscaux. Je peux vous citer, on dit que toute institution de PME dans les domaines économiques des zones A, je vois Kinshasa, doit bénéficier d'un avantage douanier de 3 ans. Et c'est 4 ans dans la région économique B, Bakongo, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, 5 ans dans la région économique C, Bandundu, Équateur, Café Occidental, Oriental, Maniema et Sud-Kivu. Déjà sur le plan douanier et fiscal, pourriez-vous me dire si ces normes qui visent à inciter, qui visent à favoriser la promotion de l'économie locale sont respectées? Est-ce que les agents fiscaux, les agents douaniers, donnent-ils des exonérations, des exemptions fiscales telles qu'elles les prévoient dans les codes d'investissement pour le jeune entrepreneur congolais? Ça, c'est une difficulté énorme qui fait que les gens ont des bonnes volontés d'investir dans le secteur des PME, mais la fiscalité est tellement illégale et élevée, et il faut que fermer leur petite entreprise. Deuxième chose, vous parlez de financement. Ce n'est pas une innovation. La charte de 2006 que je citais tantôt, elle a été modifiée et complétée à ce jour, ainsi que les différents arrêtés du ministère concerné. Fixe que le crédit doit être accordé aux petites et moyennes entreprises. Voilà pourquoi il y a les FPI, il y a les FPE, il y a aussi récemment le fonds de promotion des petites et moyennes entreprises. Mais si vraiment la loi a été respectée, pourrions-nous aujourd'hui décrire cet aspect des choses? Toutes ces choses que nous sommes en train d'évoquer ici sont prévues dans la loi. Mais le vrai problème, c'est l'applicabilité de ces normes qui sont, n'est-ce pas, glorieuses et salvatrices pour la RDC. Et je voudrais finir. L'investisseur qui investit, il n'y a pas que l'État qui a une part de responsabilité, il y a aussi l'investisseur lui-même. Alors je voudrais ici citer un homme que j'ai aimé, dont Déogratias Midagou, qui dans son ouvrage dit, pour qu'il y ait croissance économique dans un État, il faut un, que l'État fournisse les cadres et l'environnement incitatif, nous l'avons cité sur le plan de l'allègement fiscal. Mais il faut aussi que le secteur privé crée des richesses nationales et l'emploi. Et enfin, il faut que la société civile, enfin les gens, celui qui investit, puisse se charger de promouvoir l'homme dans toutes ses dimensions. On peut bien vous soutenir, cher entrepreneur. On peut bien vous accorder des finances. On peut bien alléger la fiscalité. Mais si c'est lui qui entreprend, si le petit et moyen entrepreneur n'est pas doté des capacités managériales, on fera toujours surface et rien ne pourra marcher. Au-delà de l'aspect économique qui est le moyen, il faut que celui qui gère soit doté. Voilà pourquoi il y a en Europe, dans les pays anglo-saxons, des formations en business management. Il faudra que le ministère des PME puisse avoir, dans la rencontre avec ces gens-là, organisé comment gérer un fonds.
Oui, Omar, pour certains de nombreux observateurs, l'état des lieux du secteur économique est très connu, en tout cas, l'état des lieux de la RDC dans ce secteur-là est connu. Aujourd'hui, il faut que le ministère de PME passe à la vitesse supérieure. Donc, on demande, disons, que ce ministère puisse monter des stratégies. Au lieu de passer le temps à la sensibilisation, l'air n'est plus au discours, il faut directement monter ces stratégies et mettre des moyens pour que, et finalement, qu'il y ait effectivement la promotion. Vous avez évoqué là, les avantages fiscaux et tant d'autres, mais il faut vraiment un cadre d'encadrement de petites et moyennes entreprises pour arriver à sa promotion.
Oui, cher. Je pense que nous l'avons toujours dit, le mandat de gestion politique n'est pas un mandat d'explication des théories, c'est un mandat d'action. Moi, je pense que le vrai défi ne se limite pas à faire des tours dans les PME pour visiter. Mais le vrai défi commence par poser des vraies actions. Et la première action, à mon avis, j'y ai, consiste à se mettre autour d'une table avec les différentes PME, tenir compte de leurs revendications et apporter des solutions idoines. Et faire ce que vous avez dit. Pourquoi ne pas créer un cadre de concertation économique? Parce qu'en matière économique, l'État ne décide pas seul. On doit décider en fonction des réalités économiques de ceux qui investissent. Pourtant qu'il y ait un cadre de concertation économique chaque fois qu'il y ait des discussions avant de prendre des nouvelles
décisions.
Aussi, JR, je voudrais proposer qu'il y ait des formations à business management, c'est-à-dire en gestion de l'entreprise. Je suis en train de marteler là-dessus parce que les problèmes ne sont pas seulement l'État, c'est aussi l'homme qui doit gérer les fonds qui lui sont octroyés. Il faudra que le ministère de PME puisse organiser dans chaque commune, dans chaque région économique, des ateliers de formation en gestion de l'entreprise pour que, n'est-ce pas, tout le monde puisse apporter sa petite pierre dans l'édifice de la condition économique de notre État.
Voilà, merci beaucoup, Omar. Voilà, merci, Omar. Nous avions d'ailleurs, lors du contact que nous avons pris avec le ministère de Petites et Moyennes Entreprises, posé cette question, cette priorité, cette préoccupation pour permettre à ce que le ministre puisse éclairer la lanterne des autres. Dommage que M. Bongo Koy, ministre de Petites et Moyennes Entreprises, qui avait d'ailleurs donné son accord pour être l'invité de ce jour, pour éclairer quelques préoccupations. préoccupations des uns et des autres. Je crois qu'il a d'autres charges et c'est l'équipe partie remise. Je crois que prochainement on pourrait l'avoir pour nous faire une idée là-dessus. Merci beaucoup Omar d'avoir évoqué la charte de 2006 et la charte de 2012 qui se sont complétées, mais là vous avez laissé quelques difficultés sur le plan sémantique dans le terme PME et vous estimez que tout part de là, donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à avoir la promotion, à faire la promotion de petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo, parce que la loi existe, mais cette loi n'est pas appliquée. Merci beaucoup. Révérend Alphonse, vous êtes à Bouya. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole. Quel est votre point de vue?
Bon, je pense que je n'ai pas un point de vue grandissant, puisque ce que les autres viennent de dire, ils ont bien ciblé les cas. Mais mon problème est qu'il faut juste aller au but. Il ne faut pas toujours accuser les gouvernements, il ne faut pas toujours accuser la politique, il ne faut pas toujours accuser ceci, cela. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Parce que c'est nous qui constituons les gouvernements. Et nous produisons, à Bouya ici, il y a de ceux-là qui produisent des produits locaux. Il y a des savons, Saïbou, il y a de l'eau à bine, il y a ceci, cela. Mais les Congolais ont une mentalité, je ne sais comment la qualifier. Ils veulent toujours consommer les choses importées. Mais les choses locales, qui sont vraiment crédibles, sont vendues difficilement. Nous faisons des publicités à la radio. Je suis le grand pasteur, mais pour votre information, j'ai fait la correspondance scientifique, je suis journaliste même dans beaucoup de radios ici à Bouya et même dans une chaîne internationale c'est Baridio. Alors le problème que je viens de constater, c'est Bouya qui a alimenté Kinshasa avec la viande. Comment cela est coupé? Et vous allez descendre d'ici de Bouya à Kabi. Il y a des bananes plantées qui pourrissent dans les champs. Il n'y a pas moyen de les évacuer ici à Bouya à cause de la guerre. Alors, descendons un peu à la région orifère. On extrait de l'or ici sur place. Cet or est vendu à Kampala. Et il y a les services de douane, de contrôle, je ne sais pas ce qui c'est là. Et c'est de là, il faut amener ça en Chine, il faut encore
fabriquer des bijoux,
pour revenir nous les vendre vraiment à un pays très exorbitant.
Alphonse,
est-ce que nous nous considérons nous-mêmes
étant
des hommes vraiment au même niveau que ceux-là que nous considérons plus que nous?
Oui,
allez ici à Kampala,
parce
que j'ai voyagé presque l'Afrique entière. Allez ici à Kampala, vous allez trouver une bouteille de sucre qui coûte à Kampala 600 shillings et vous allez ici tout juste au bord du lac Albert, ça coûte à Toronto, ça coûte 600 shillings. Il faut traverser le lac Albert ici à Kasenyi, ça va vous coûter 1000 francs congolais. Alors vous voyez de quelle façon nous ne prenons pas en considération notre pays, notre pays comme un pays des autres, et pourtant nous devons nous sacrifier pour ce pays.
Voilà.
Nous allons promouvoir ce pays nous-mêmes.
Voilà.
Si nous attendons la promotion de l'extérieur,
mes
amis, c'est pour nous exploiter.
Merci à vous. Alphonse, restez en ligne, Alphonse. Juste une question. Alphonse.
Oui.
Voilà, alors vous avez demandé aux Congolais de pouvoir être consciencieux dans les travails et surtout que tout le monde puisse mettre la main à la pâte afin d'arriver à ces résultats, à savoir la promotion des petites et moyennes entreprises. Vous avez évoqué les cas de production de l'or à Bouya, les cas de savons qui sont fabriqués sur place. Mais la plus grande question, vous imaginez la production qui n'est pas, selon les derniers rapports ou les plusieurs rapports et analyse économique, qu'aujourd'hui la production n'est pas suffisante pour être consommée à travers les pays. Alors, s'il faudrait augmenter cette production, vous ne pensez pas qu'il faut vraiment l'intervention de l'État congolais?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Toutefois, mon cher ami, on ne peut pas parler de l'économie là où il y a l'insécurité. on ne peut pas parler de la stabilité économique là où il n'existe même pas la route.
La route, voilà.
On ne peut pas parler de l'économie à 100%, hein, parce que on a fait la science économique à l'université. Alors, pratiquement, c'est les choses qui peuvent nous aider. Dites-moi, mon frère, je suis ici, hein, nous produisons une grande quantité de mangue. On peut fabriquer des confitures ici sur place. Mais pour des grandes fêtes, il faut toujours acheter des confitures, voilà. Des Luganda, confitures. D'ailleurs, je ne sais pas,
voilà.
Des mayonnaise.
Merci beaucoup, Alphonse. Merci beaucoup, Alphonse.
Du fromage.
Merci beaucoup.
Vraiment, parce qu'on consomme,
beaucoup de gens attendent de consommer
toujours le fromage qui vient de l'Inde.
081-890-7315 pour votre intervention en direct.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Capi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Capi en balade.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. Madame Joséphine, vous êtes à Boston aux États-Unis. Bonjour.
Bonjour Radio Okapi.
Voilà, il y a notre auditeur qui vous a précédé là, qui a évoqué quelques préalables qui doivent accompagner les petites et moyennes entreprises pour que finalement on arrive au résultat. Entre autres, il a évoqué l'état de l'insécurité et aussi des problèmes liés aux infrastructures qui ne sont pas viables. Là où disons ces entrepreneurs exercent leurs activités. Alors tous ces problèmes mis ensemble, ça nous renvoie également ce qu'avait évoqué tout à l'heure notre auditeur Omar en ce qui concerne la sémantique qui est mal comprise au niveau du concept PME. Et aujourd'hui, si jamais on arrivait à octroyer des avantages fiscaux, notamment aux douaniers, à tous ces producteurs, on pourrait arriver au résultat. Mais qu'en pensez-vous?
Merci beaucoup. Ce que je pense, comme l'auditeur là qui venait de parler là, c'est un cri de larmes. Il est en train de pleurer. Le Congolais pleure, il crie, et il faut l'écouter. Il faut que le gouvernement congolais ouvre ses oreilles pour écouter les petits peuples. Quand on dit petite et moyenne entreprise, on voit petit peuple, c'est petit peuple. Moi j'aime, quand j'appelle Radio Capi, j'aime parler... léger, pour que tout le monde, sinon on pouvait parler lingala swahili, pour que tout le monde puisse écouter. Quand l'autre auditeur a parlé de alléger les taxes, c'est à l'importation qu'il a dit?
Oui, à l'importation.
Je suis contre. On ne peut pas commencer par faire quelque chose, alléger quoi que ce soit pour importer. Non, on n'est pas encore là. Le Congo n'est pas encore là. C'est ce qui tue même les petites et moyennes entreprises au Congo. Commençons par le commencement, par les débuts. Le monsieur dit que c'est à Bounia ou bien
à Bounia.
On produit les bananes plantains. Et les mangues pourrissent dans des villages. Vous savez, hein, pourquoi l'État congolais ne va pas dans les travaux de fin d'études dans des universités? Moi, j'ai étudié à l'université de Lubumbashi, en économie. Mais il y a des travaux, on a écrit. On ne pouvait même pas commencer à faire tout ça. Tout est là. Les lois existent, les travaux de fin d'études existent pour commencer, pour améliorer, pour économiser, pour démarrer. Il faut rentrer à la petite et moyenne entreprise, rentrer au village. Comment on va arriver au village? C'est par les routes. L'homme qui produit les bananes plantaines, qui cultivent les bananes plantées, qui a le mangue, il lui faut le route pour dégager tous ces mangues-là. Quand il y aura encore l'excès de mangues, l'homme-là, son enfant va aller étudier, voir comment faire la confiture. Je prends seulement le mot qu'ils ont utilisé. La confiture, comment on fait? Maintenant, le village-là aura besoin de l'électricité. Alors, quand la production sera va augmenter, l'homme-là, l'État doit intervenir avec les subventions. Petite et moyenne entreprise, ce n'est pas l'argent qu'on va voler, c'est l'État. Non! Petite et moyenne entreprise, c'est l'argent, on part à la banque, on prend un prêt, on dit que non, moi j'ai produisé telle quantité, maintenant je dois produire telle quantité, grande quantité, donnez-moi l'argent. L'État doit intervenir avec les routes, l'électricité. On n'est pas même au niveau des importations. Non, le monsieur a dit, il mange, maintenant on consomme la confiture, c'est tout là. Quand vous allez encore réduire les taxes à l'importation, mais ça sera grave, et c'est réduit, ce n'est même pas réduit. Il y a la corruption. Tout entre écoutez, dépolitiser le pays. L'économie ne peut pas être politisée. Le civil, ce qui est civil ne peut pas être politisé. Les universités ne peuvent pas être politisées. Terminer la guerre est même la politique elle-même est politisée. C'est grave dans le sens où vous voyez un militaire qui est même là à la douane, il a son entreprise, il fait entrer des histoires qui exonérer de tout. C'est ça, politique politisée. Dépolitiser le pays, écouter les cris des villageois, écouter les cris des infirmiers qui ont des mangues, qui sont en train de pourrir. Non, messieurs, écoutez ça. Tous les travails, c'est dans les universités. On n'a même plus besoin de faire autre chose.
Merci beaucoup, madame Joséphine. Pour vous, l'état des lieux est déjà connu. Il y a des cas qui ont fait l'objet d'études dans certaines universités ou encore par certains chercheurs. Donc on ne peut plus revenir en arrière parce qu'il faut consulter tous ces archives, il faut consulter tous ces documents. Ça pourrait nous permettre de nous faire une idée très claire comment faire la promotion réellement des petites et moyennes entreprises. Mais vous avez tout de même évoqué quelques préalables qui doivent accompagner les activités sur le terrain, qui permettent donc à l'État congolais de pouvoir accompagner ces activités sur le terrain pour permettre à ce qu'il y ait le résultat escompté. Donc voilà, vous avez cité les cas d'électricité, vous avez cité les cas des infrastructures routières pour aider en tout cas les paysans qui arrivent à produire par exemple de bananes à pouvoir les acheminer dans des grandes villes où ils peuvent aller faire aussi des recherches sur comment fabriquer des confitures et tant d'autres. Merci beaucoup Madame Joséphine d'avoir appelé de Boston aux États-Unis. Jean-Claude, vous êtes à Loubero. Bonjour.
Bonjour, Géry Lugembo, c'est plutôt Jado de Lutero. Jado Kachouva, ce n'est pas Jacques. En fait, merci pour la thématique du jour. La petite et moyenne entreprise, ici spécialement en territoire de Lutero. En Sereka, nous sommes aussi à des sujets qui pratiquent le petit commerce. Mais les difficultés auxquelles nous nous heurtons sont d'ordre de la mauvaise foi des acteurs politiques. La mauvaise foi des acteurs politiques, comme madame venait de le dire, c'est lorsque on cherche à politiser tout acteur public. Les acteurs de l'État, ils sont là, et même qui ne comprennent pas les catégories des assujettis. Vous verrez quelqu'un qui a une petite boutique, il sera à la catégorie de première qualité et il sera soumis aux taxes qu'il ne doit pas payer. Ça, c'est un problème. Et le deuxième problème, même au niveau des législateurs. Parce que tous ces députés-là, ils votent les lois à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale. Ils ne semblent même pas comprendre les issues économiques de leurs électeurs. Comment comprendre que certaines taxes puissent être soumises à un paysan de Masereka qui, lui, n'a même pas de l'électricité, qui n'a aucun avantage de l'État, qui n'a aucune banque à Masereka, Et vous allez voir que les gens seront soumis à des taxes où ils ne peuvent pas être capables de désembêter quelque part pour continuer leur activité économique. La troisième thématique, c'est celle qui rouge, comme on venait de l'étudier. Ici, c'est nous à Lubero. Nous avons quand même une population très, très courageuse qui se débrouille, qui trace les routes d'elles-mêmes. Et les routes semblent exister, même s'il n'y a pas un accompagnement de l'État pour y mettre des cantonniers qui continueront toujours à garder des routes très sereines. Alors, le problème, c'est quoi? Lorsque les gens tracent leur propre route, vous verrez l'État qui va maintenant mettre leurs percepteurs comme sur les barrières, d'autres percepteurs comme qu'on appelle les agents de la circulation routière, et ils arrivent à tracasser la population et les gens ne semblent plus de quitter leur petit commerce avec beaucoup de facilité. Alors, cette tracasserie administrative, c'est que beaucoup de gens, à la fin de l'année, ils arrivent à connaître une balance déficitaire. Leur activité ne semble plus marcher, et cela tout simplement parce que, en fait, l'État n'a pas donné de moyens. Et imaginez les productions locales. Ici, les productions locales sont le plus surtaxées. Et les produits qui viennent de l'Ouganda sont les produits qui sont consommés à un bas prix. Alors, on se demande pourquoi les produits qui sont produits au Congo arrive à avoir un prix très élevé. Tout simplement, lorsque nous collaborons, nous causons avec les opérateurs économiques, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'au Congo, il y a plusieurs taxes. Au Congo, ici à Butembo ou à Lubero, il n'y a pas d'électricité. Alors, quand on essaie d'évaluer tout ce qu'on a mis en jeu pour produire tel produit, comme les avos aïkou et beaucoup d'autres produits locaux, on dit non, nous devons fixer le prix parce que nous faisons des commerces pour gagner un peu de bénéfice. Et cela, c'est un problème. Alors, moi, ce que je cherche davantage, M. Gér, c'est que les opérateurs politiques ont détruit l'action politique. Et comment? C'est par exemple lors du passage du gouverneur ici à Ville de Butembo, dans le territoire de Lubero, il s'entretient avec les opérateurs économiques de la FED, il leur dit que vous êtes déjà comporté en opposant. Il prend même sa population en opposant. Il dit, alors nous allons faire tous les moyens même de détruire votre commerce si vous ne changez pas de mentalité. Et moi, je me dis, mais après, depuis quand la FED est déjà inscrite sur la liste des partis politiques de l'opposition et qu'ils sont soumis à autant de taxes d'une façon de leur faire peur. Alors, toute cette action-là, lorsque le gouvernement se comporte de cette façon-là, une façon de faire tout pour les questions électoralistes, et vous retrouvez que les gens détruisent totalement l'action économique. Il y a même certains opérateurs politiques. Ils arrivent dans un restaurant, ils prennent des radières, ils prennent des ils ne vont pas payer après. Et lorsqu'ils ne payent pas, lorsque vous cherchez à recouvrer cette dette-là, ils vous disent, monsieur, si tu me déranges, je vais permettre à ta boutique. Et vous vous dites, est-ce que vous avez pris ça parce que tout simplement vous êtes un agent de l'État ou vous étiez parmi les autres clients qui doivent me payer? Alors, voilà un système qui détruit l'environnement économique.
Voilà. Donc pour vous, l'État découvre quand même certains. Oui. Allez-y rapidement.
Les préparations politiques des députés qui ne savent pas comment ils peuvent voter tel ou tel autre député qui sera adapté aux besoins économiques de la population congolaise et surtout catégoriser certains enjeux dans le secteur économique, savoir que la petite et moyenne entreprise, conformément au tissu économique de notre pays.
Voilà, merci c'est beaucoup, Jadot, merci. Oui, Jadot de Lubero, Jadot. Voilà, Jadot. Voilà, Jadot. Voilà, je crois qu'on va accorder quand même la parole à d'autres personnes. Jadot, on va s'arrêter là. Nous retenons que c'est vrai, vous partagez l'avis selon lequel que plus de 80% de l'économie congolaise reste aux mains de petites et moyennes entreprises. En évoquant quelques exemples, mais seulement vous dites que cette volonté de pouvoir investir est souvent découragée et par l'État lui-même au travers de certains de ses agents qui sont un tout petit heureux, qui en fait ne respectent pas la loi ou qui viennent à temps et à contre-temps exiger des taxes qui n'entrent même pas dans les trésors publics. Merci beaucoup, Jadot, d'avoir appelé de Lubero. Michel, vous êtes à Matadi, bonjour.
Oui, allô, bonjour, les journalistes.
Vous avez la parole, quel est votre point de vue?
Oui, moi je crois que c'est beaucoup de fois que nous avons envie de nous réfléchir. Mais je crois que c'est comme si nous étions dans les films Titanic, pendant que ces ironies s'échouaient, l'un parmi les va dire que nous jouons, mais personne ne nous entend. Vous savez, pendant que nous traitons des PSG, il y a déjà des comptes et des billets de banque. Et qui disent, regardez ces gens, ils ne savent pas ce qu'ils disent, n'importe quoi.
Voilà.
Oui, ça c'est joli. Et ce sont ces gens-là qui se sont mis à force pour finir les enfants.
Je ne sais pas par quel miracle, non, je ne sais pas par quel miracle, Michel.
Vous savez,
on n'est pas des
gens. Dans un pays,
ouais.
Je ne sais pas, nous comprenons ce que nous sommes en train de faire. Il y a des choses que nous ne voulons pas répéter. Si c'était dans des pays qui sont démocratiques, les débats contradictoires pour les présidents sont légaux. Ça a un avantage. Parce que la personne qui veut diriger un pays doit avoir qu'est-ce que je veux dire dans tel domaine, dans celui-ci, dans celui-là. Mon frère, je donne mon exemple. Pas si loin, j'avais une petite affaire, j'avais une maison commerciale. Mais j'ai fini par fermer. Pourquoi? Parce que j'ai compris que même l'État me torture. Aujourd'hui, vous avez un opérateur économique qui vous arrive, demain, il y a un autre, et au lieu que vous poussiez avant, je ne sais pas si vous m'entendez.
Mais on vous attend 5 sous 5, Michel.
Au lieu que j'ai avancé dans mon affaire, je suis en train de regretter. Pourquoi? Parce que j'ai compris que l'État est en train de me voler. Même tous ces gens qui viennent, vous allez vous rendre compte, ils viennent. Non pas au nom de l'État, mais comme c'est un système, les gens viennent prendre tout ce que vous avez, non pas au compte de l'État, et l'État ne peut pas faire le suivi, et voilà, ça nous amène dans de telles situations. Autre chose, je ne sais pas comment un pays peut se développer si nous donnons tous les avantages aux expatriés, aux nationaux. Vous savez, les années passées, il y a une campagne qui a été menée ici. On a dit aux étrangers qui sont ici, toutes les options, les vendre en détail. Mais parfait, allez, si vous êtes dans un pays où ceux qui viennent d'ailleurs ne veulent même pas respecter les lois de la République, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, moi, ce que je voudrais dire ici, c'est la corruption qui détruit tout ça. La
corruption, voilà, Michel, merci.
Alors, je ne sais pas dans ces domaines-là. Si notre
économie,
il y a une bonne croissance, la croissance évolue. Est-ce que vous le sentez là où vous êtes?
Il y a
le premier préalable, je peux vous dire, par exemple, la rémunération. Si les gens ne sont pas payés, comment ils doivent acheter? Ceux qui doivent acheter, ce sont les gens qui ont l'argent. Et aujourd'hui, si vous passez dans toute la République, vous ne pouvez pas passer d'une parcelle à une autre sans que vous ayez trouvé une boutique. Et si vous trouvez dans un pays où tout le monde veut vendre, mais c'est comme le faux. C'est comme le faux.
Ce qui est un problème.
Voilà,
c'est selon votre attendement, Michel.
Aujourd'hui, et ma place a peut-être ressaisir. Parce que moi, je vous ai dit que je doute un peu de sa cravate rouge. Je doute.
Voilà, Michel, n'attends pas dans les jugements des valeurs. Mais moi, j'avais tenu une chose, parce que lorsque vous avez dit, au moment où nous traitons ces sujets, il y a d'autres personnes qui comptent les billets. Bon, l'OEA a une autre intention de confirmer que vous êtes un devin, parce que, bon, je ne sais pas par quel miracle vous l'avez vu, je vous le concède, mais à moins nous retenons une chose, que pour vous, c'est l'État qui décourage certains investisseurs, notamment des petites et moyennes entreprises, les nationaux qui veulent se lancer. Vous avez donné votre exemple, vous-même, vous avez une boutique, mais tellement qu'il y a eu trop de tracasseries administratives de la part de ceux-là qui se présentent comme agents de l'État, mais en réalité n'agissent pas au nom de l'État, mais pourtant par rapport à leur nom propre. Merci beaucoup, Michel. Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Gaston.
Merci beaucoup. C'est avec regret. Malheureusement, je parle en dernière minute. Je suis convaincu que je ne parlerai pas beaucoup.
Voilà, vous avez pratiquement 2 minutes. Que vous avez encore des temps.
Je serai déjà plein. J'ai toujours dit, et je ne ferai pas de répéter. Nous, peuple congolais, nous devons demander pardon à ce Dieu qui nous a donné ce pays. Ok, monsieur. Un peuple mérite le chef qui le dirige. Point. Cette phrase est valable. Les gens commettent des erreurs. Je prends presque tous ceux qui sont intervenus avant moi. Comme si j'étais dans l'ignorance de vouloir dire que le gouvernement commet une erreur, le gouvernement est conscient de ce qu'il fait. C'est le peuple qui mérite ce gouvernement-là. Il me fait dire qu'il y a un moment donné, un ministre, il fait quelque chose, et parce que pour dire, mais bon, voilà, déjà, c'est dans la loi. Les étrangers ne peuvent pas vendre en détail. Et quand ce peuple-là voit ces étrangers vendre en détail, comment ce peuple-là réagit? Il regarde, il ne fait rien. Mais c'est ça qu'il mérite, ce peuple.
Vous croyez que ce gouvernement a commis des erreurs? Non. Donc, le gouvernement ne commet pas d'erreur. Le gouvernement est conscient. C'est un système.
Oui, mais garçon, nous avons vu à un certain moment les travailleurs, les différents travailleurs dans des boutiques et magasins au niveau de la venue du commerce, disons, lancer le mouvement des grèves à l'époque pour cette affaire. Il y a eu des commissions mixtes qui ont été mises au pied pour étudier de fond en comble cette question. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai. C'est une façon de nous rappeler aussi, nous, de parler aux auditeurs, de revenir sur les débats où en est-on avec la commission qui était mise sur pied pour revoir l'applicabilité de cette disposition de la loi sur les commerces. Allez-y, je vous donne une minute.
Peut-être une minute et demie.
Allez-y. Voilà. Allez-y rapidement, comme ça on accordera la parole à Pitué et Daniel qui vont conclure.
Vous savez, tout ce qui a été dit, il tourne autour des routes. Où on produit pas? Partout on produit. Dans mon village, on produit. Il n'y a pas de routes pour évacuer. Mais ces routes-là, même des routes en serre qui doivent être entretenues, pas cette jeunesse qui est en chômage. Le gouvernement ne finance pas, ce n'est pas parce qu'il manque des moyens. Il ne peut pas financer ce peuple. Mérite de rester chômeur parce qu'il ne réussira jamais. J'aurais bien l'exemple que je vais donner ici de l'année passée, les magasins qui ont fermé. Un mouvement qui a pris 2-3 jours. Et après, vous voulez me dire qu'ils ont obtenu gain de cause? Ils n'ont pas obtenu gain de cause. Le même gouvernement qui est dans un système prend des syndicats qui viennent négocier pour leurs propres intérêts. Aujourd'hui, la situation est revenue au point de départ. Et vous allez dire que ce gouvernement n'a pas compris, il a été trompé. Le gouvernement est conscient que le peuple qui mérite ces dirigeants-là. Ça, c'est ma conclusion.
Voilà, merci beaucoup. Vous avez déjà épuisé vos.
Ceux qui sont au pouvoir.
Voilà, vous avez épuisé votre minute. Garçon, merci d'avoir épuisé votre minute. Je vais donner une minute et demie. Voilà, Pichou, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Puis bonjour, JR. Moi, je pense que pour encourager les petites et moyennes entreprises, l'État congolais doit penser à créer la banque du peuple. Parce que nous, quand nous voyons bien, nous constatons que le gouvernement congolais donne plus de confiance aux différentes banques de second degré, en tendance capitaliste, des banques multinationales. Or, nous connaissons bien l'impact de la banque du peuple avant les années 90 dans le domaine des crédits. Cette banque donnait plus de crédit aux vrais Congolais et même aux étrangers. Or, vous les mettez dans des multinationales et cela ne va pas permettre aux petites et moyennes entreprises de bien travailler ou bien progresser. Et aussi, si on voit de près, les différentes coopératives privées, et est en train plutôt de croquer les gens. Vous remarquerez que cela ne va pas suffire. Le pays est un circuit vraiment fermé. Et si quelqu'un n'est pas recommandé, il ne va pas accéder au crédit. Alors, pour moi, à mon avis, je pense que l'État doit revoir ce point-là en créant la banque du peuple, afin de permettre les crédits même aux bas peuples et même aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pichou, d'avoir appelé de Kisangani. On prend Daniel Lalumbashi. Daniel, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les amis de la radio de la paix. JR, je vais baser mon intervention après tous ces compatriotes ont décrié qui sont violés. Je suis fait par ceci en disant, le développement d'un pays c'est un tout. Hein? Un pays est comme un cercle tissueux. Donc on ne peut pas développer un pays à partir d'un point donné. Donc le développement d'un pays c'est un tout. Donc le pays se développe en tout. Il y a des campagnes qu'on lance pour valoriser les petites et moyennes industries. Cela est aussi lié, par exemple, à des campagnes telles que consommons local, de l'industrie locale. Mais cela ne peut pas se faire dans un contexte ou dans un environnement comme le nôtre. JR, je ne suis pas pessimiste. Je répète ce qu'a déclaré sur l'antenne de la radio Capi le représentant des gouverneurs, le gouverneur du Nord, qui est Palou, lors d'une émission sur la radio Capi. Il a dit ceci, je le répète. Avec les budgets que nous avons, on ne peut jamais envisager le développement de notre pays. Cela veut dire tout simplement quoi? Quand on dit qu'on va valoriser les petites et moyennes entreprises, est-ce que l'État a ces moyens-là pour le faire? Nous voyons par exemple les chers Kobashi hier, ce sont des banques privées qui donnent des crédits, je ne vais pas citer ces banques pour faire leur publicité, qui donnent des petits crédits à des personnes et avec des intérêts très forts. Et qu'est-ce qu'il y a comme résultat? Donc vous voyez, ce sont des mamans là qui vont là-bas pour prendre de l'argent et pour travailler pour les autres banques là, qui ne créent pas parce que ce sont des taux qui sont élevés. Et comment est-ce qu'on peut développer l'industrie locale tant que nous n'avons pas des infrastructures telles que les routes qu'on a citées par les compagnies qui ne sont pas en place? Et notre pays ne peut pas toujours avoir des excuses, soi-disant pays post-conflit. Mais l'Angola a connu la guerre que nous avons connue. Le Congo Brazza a connu la guerre civile. Mais comment se fait-il que ces pays-là ont des budgets plus que le nôtre, voire même deux fois plus que le nôtre? Moi, j'ai eu des amis qui sont partis en Zambie pour aller travailler, et d'autres sont partis en Namibie de mettre, juste pour aller toucher 2000 dollars. Mais ici, chez nous, c'est pas faisable avec tout ce qu'on a comme budget. Donc, on peut prendre des initiatives, consommons Made in Congo, soutenir les petites et moyennes entreprises, mais tant que le budget que le gouvernement a ne peut pas soutenir cette politique, et tout ce qu'on peut commencer à dire, c'est de la
stratégie.
Ça peut sembler très dur, mais je ne suis pas pessimiste, mais c'est la réalité en face que nous avons hier. Et nos autorités commencent par être sérieux.
Merci beaucoup, Daniel. Et vous avez la chance de conclure cette émission. Donc, il faudrait que tout le monde puisse mettre la main à la pâte pour arriver à faire réellement la promotion de petites et moyennes entreprises qui passent notamment par un certain préalable que vous avez tous évoqué au cours de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir participé à ces débats et surtout d'avoir apporté votre contribution dans cet échange citoyen. Merci également à Guy Mandangou qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Piro et la Mégie et Gilly Feza Bongonda. Une émission qui nous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. On se retrouve demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien.